France Culture, il est 18h, le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pendant que les uns et les autres se renvoient la responsabilité de l'échec de la trêve humanitaire en Syrie, les civils continuent d'en payer le prix fort. Nous suivrons l'actualité syrienne depuis Moscou. Brexit, il faut accélérer les négociations, explique Michel Barnier au nom de l'Union européenne. Le projet de traité de divorce est inacceptable. En l'état, réplique la Britannique Theresa May, qui rejette les dispositions concernant l'Irlande du Nord. Les malades en fin de vie doivent pouvoir librement disposer de leur corps. C'est le message que veulent faire passer 156 députés issus en grande partie de la majorité. Ils réclament une nouvelle loi cette année. L'assurance chômage devrait quasiment revenir à l'équilibre à l'horizon 2019. L'UNEDIC se félicite de sa bonne gestion, mais ses prévisions ne tiennent pas compte de la future indemnisation des salariés démissionnant en vue d'une reconversion. Des combats au sol se poursuivent dans la partie rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas. La trêve quotidienne de 5 heures décrétée par la Russie n'est toujours pas respectée et plus de 600 civils ont été tués dans l'offensive du régime lancée le 18 février selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France appelle les alliés de Bachar al-Assad à exercer une pression maximale sur le régime syrien afin qu'il respecte la résolution de l'ONU pour une trêve humanitaire en Syrie. Les États-Unis sont plus virulents, la Russie ne fait rien pour empêcher le régime d'Assad d'utiliser des armes chimiques en Syrie. Elle est du mauvais côté de l'histoire sur cette question, déclare Robert Wood, ambassadeur américain à la conférence sur le désarmement à Genève. À Moscou, on a une toute autre version des faits. La Russie continuera à soutenir l'armée syrienne pour éradiquer la menace terroriste, affirme le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qui appelle les rebelles et ceux qui les soutiennent à agir pour que la trêve fonctionne. La correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Vu de Moscou, les violations de la trêve quotidienne incombent aux terroristes, leurs provocations contraignant l'armée syrienne à riposter. Raison pour laquelle le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a aujourd'hui enjoint les rebelles à agir pour permettre le fonctionnement du cessez-le-feu qui s'étend tous les jours de 9h à 14h et qu'a décrété Vladimir Poutine dans la Ghouta orientale. Indirectement, le chef de la diplomatie russe demande également au soutien de ces rebelles de faire jouer leur influence, de la même façon que les chancelleries occidentales demandent à Moscou de faire pression sur Bachar el-Assad. Moscou et Damas ont annoncé la création de couloirs humanitaires dans la Ghouta orientale et nous appelons les membres de la soi-disant coalition américaine à assurer le même accès humanitaire aux zones qu'ils contrôlent, a fait savoir Sergueï Lavrov devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le chef de la diplomatie russe estime que les bombardements de certains groupes rebelles empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire dans la Ghouta et l'évacuation des blessés comme de ceux qui souhaitent partir. Si 400 000 personnes environ sont prises au piège de la Ghouta orientale, le ministre russe des Affaires étrangères est toutefois restée très ferme. La Russie continuera à soutenir le gouvernement syrien dans le combat qu'il mène pour éradiquer le terrorisme.
La Maison-Blanche a retiré à Jared Kushner son droit d'accès aux dossiers les plus sensibles. Le gendre et proche conseiller de Donald Trump ne peut plus lire le rapport confidentiel remis quotidiennement au président américain et à un nombre restreint de hauts responsables. Son autorisation temporaire est arrivée à expiration et il ne peut pas en avoir de définitif tant que l'enquête portant sur ses liens financiers n'est pas arrivée à son terme. Marco Volter, vous êtes en direct de New York. Jared Kushner conserve son poste. John Kelly, le secrétaire général de la Maison-Blanche, lui a réaffirmé sa confiance. Mais peut-il vraiment travailler dans ces conditions ?
Eh bien, à la Maison-Blanche, on dit que oui, mais vous avez raison. L'image, la crédibilité de Jared Kushner en prend clairement un coup. Et quand on est chargé de négocier la paix au Proche-Orient et les relations, vous savez, très compliquées avec le Mexique, eh bien, la crédibilité, ça compte. D'autant que d'après le Washington Post, Israël, le Mexique, mais aussi la Chine et les Émirats Arabes Unis auraient tous cherché des moyens pour tirer avantage de l'inexpérience politique de Jared Kushner. On cite des sources anonymes à la Maison-Blanche, mais ce genre de fuite ne crée vraiment pas un environnement de confiance. J'ajoute que son entreprise, la Kushner Company, cette fois, qui opère dans l'immobilier, aurait par le passé conclu ou tenté de conclure des deals un peu obscurs avec des investisseurs étrangers. Le mot-clé ici, c'est conflit d'intérêts. Le procureur Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans le processus électoral, serait d'ailleurs en train de se pencher sur les opérations financières de cette entreprise. Et puis, le nom Kushner figure aussi sur la liste des personnes qui ont participé à la fameuse réunion de la Trump Tower avec une avocate russe. C'était pendant la campagne électorale. On verra maintenant. Et la L'avenir nous le dira s'il s'agit là d'un premier pas pour peut-être pousser ce gendre devenu un peu trop encombrant pour Donald Trump et la Maison-Blanche pour le pousser vers la porte de sortie.
Merci Marco Voltaire en direct de New York. En Roumanie, le parquet anticorruption reçoit le soutien du président Klaus Iohannis. La semaine dernière, le ministre de la Justice avait réclamé la destitution de la magistrate responsable de la lutte contre la corruption en Roumanie, lui reprochant un excès d'autorité. Mais des milliers de Roumains avaient manifesté dans plusieurs villes pour manifester leur soutien à Laura Codruta-Kövesi. Ce matin, la magistrate a présenté le bilan 2017 de la Direction nationale anticorruption qui a finalisé un nombre record d'enquêtes, plus de 3800 l'an dernier. Et elle a souligné à cette occasion les attaques sans précédent dont l'institution avait fait l'objet. Reportage de Paul Cosiguian à Bucarest.
Présentée ce matin par Laura Codruta-Kövesi, la procureure en chef du parquet anticorruption, le bilan pour l'année 2017 est accablant pour les politiciens puisqu'on a pu enregistrer près d'un millier de mises en examen.
Un tiers des inculpés mis en examen sont des hauts fonctionnaires, des dignitaires ou des responsables politiques. Trois ministres, cinq députés, un sénateur, deux secrétaires d'État et un ancien président de la Chambre des députés.
Voilà pourquoi, afin de juguler encore plus l'indépendance de la justice, le Parlement de Bucarest a fait voter à la fin de l'année dernière un paquet de lois non seulement hostiles à l'acte de justice, mais de surcroît limitant sérieusement les pouvoirs du président de la République, fervent défenseur de la lutte anticorruption, en matière de nomination ou de révocation des hauts dignitaires de la magistrature. Mais le président Iohannis a très bien compris la vraie raison de ces manœuvres.
On assiste dernièrement à des manifestations virulentes dues au désespoir, des tentatives de manipulation dans le but de décrédibiliser la Direction nationale anticorruption, la finalité étant la subordination de la justice par le politique. Et ça, c'est inadmissible.
Le but de ces politiciens corrompus est donc de mettre un terme à la lutte anticorruption afin d'arrêter les poursuites en cours visant des hauts responsables de ce Parlement roumain, notamment des chefs de la Chambre des députés et du Sénat, tous les deux poursuivis pour des faits de corruption aggravés parmi lesquels des emplois fictifs et surtout des détournements de fonds européens de l'ordre de millions d'euros.
Le ministre slovaque de la Culture démissionne. « Je ne peux pas supporter qu'un journaliste ait été assassiné alors que j'étais en fonction », déclare Marek Madarić. On a découvert dimanche les corps du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne. Jan Kuciak enquêtait sur une affaire de corruption à haut niveau impliquant la mafia italienne et des politiques. Le site d'information pour lequel il travaillait vient de publier, avec d'autres médias, une version inachevée de son article. Les dissensions sur le Brexit sont toujours aussi fortes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce matin, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, a présenté une ébauche juridique du futur accord sur le Brexit, un document reprenant les compromis parfois ambigus conclus en décembre dernier dans trois dossiers clés, le sort des expatriés, la facture de la rupture et l'avenir de la frontière irlandaise. Et Michel Barnier a souligné que le temps pressait pour un accord.
Si nous voulons réussir cette négociation, nous devons accélérer. Dans 13 mois, le Royaume-Uni ne sera plus un État membre de l'Union européenne. Nous avons maintenant besoin, je le pense, de négocier sur la base d'un texte, parce que le temps est court. Il faut garder un certain nombre de mois pour le temps de la ratification. Et voilà pourquoi notre choix est maintenant de travailler et de proposer à nos partenaires britanniques de travailler sur un texte juridique qui apporte de la clarté.
Michel Barnier au micro de Quentin Dickinson à Bruxelles. Pour éviter de reconstruire une frontière entre la République d'Irlande, qui continuera à faire partie de l'Union européenne, et le Nord, qui n'en fera plus partie, le traité propose de donner aux Irlandais du Nord la possibilité de rester dans l'Union douanière. Solution immédiatement rejetée par le gouvernement de Londres. Antoine Gignot.
Pour la Première ministre, c'est une question qui touche à l'identité, à l'existence même du Royaume-Uni. Pour la première ministre, c'est une question qui touche à l'identité, à l'existence même du Royaume-Uni. Si l'Irlande du Nord continue de faire partie de l'Union douanière alors que le reste du pays n'est plus rattaché à l'Union européenne, il faudra instaurer des contrôles dans les ports pour surveiller les voyageurs, il faudra des douaniers, des taxes, des réglementations. Les Irlandais du Nord seront en quelque sorte séparés, coupés de Londres et de leur maison mère, un scénario inacceptable, explique Theresa May.
S'il entre en application, le projet de texte juridique que la Commission a publié affaiblira le marché commun britannique et menacera l'intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni en créant une frontière douanière et réglementaire en mer d'Irlande. Aucun Premier ministre britannique ne pourra accepter cela, jamais.
La réaction est la même chez les députés unionistes qui dénoncent un texte constitutionnellement inacceptable. Nous redoutons, disent-ils, une catastrophe économique s'il est mis en application. À l'extrême droite, les élus du parti europhobe UKIP et les tabloïds comme le Sun parlent d'une tentative de Bruxelles d'annexer l'Irlande du Nord pour la séparer définitivement du Royaume-Uni. Mais au-delà des critiques, personne ce soir ne propose de solution.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture à Londres. L'ancien Premier ministre britannique John Major revient à la charge pour défendre l'idée d'un second référendum sur l'accord final sur le Brexit. Beaucoup d'électeurs savent qu'ils ont été induits en erreur, explique John Major. Beaucoup d'autres commencent à s'en rendre compte et l'électorat a donc le droit de reconsidérer sa décision. Une option qui a déjà été rejetée à plusieurs reprises par Theresa May. Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps, écrivent 156 députés dans une tribune publiée aujourd'hui par le journal Le Monde. Les parlementaires, essentiellement issus de la majorité, appellent à mieux encadrer les droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie. Charlotte Lannes, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Ces élus veulent légiférer dès cette année. Que réclament-ils exactement ?
Eh bien, ils revendiquent le droit pour chacun de choisir sa fin de vie et pointent l'hypocrisie de la situation actuelle qui oblige des patients à recourir à l'euthanasie à l'étranger ou en France de manière illégale. Cela concernerait 2 à 4 000 personnes selon ce collectif de députés. Olivier Falorni, député radical de Charente-Maritime, est l'un de ses signataires.
Il s'agit simplement d'offrir à nos concitoyens, dans des cas définis par la loi, je le rappelle, il ne s'agit pas de promouvoir le suicide. Il s'agit de proposer aux citoyens qui sont atteints de souffrances insupportable lié à une maladie dont on connaît l'issue, de pouvoir partir. C'est un élément qui rassure et c'est un élément qui permet aussi de pouvoir finir sa vie avec ses proches. Parce que la sédation profonde et continue telle qu'elle nous est proposée, c'est une sorte d'anesthésie générale prolongée dont on ne connaît pas les effets, d'ailleurs qui peuvent peut-être générer des souffrances parce qu'on arrête l'hydratation, on arrête la nutrition. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est d'épargner des souffrances inutiles à des malades dont on connaît hélas l'issue et qui aujourd'hui sont livrés à la bonne volonté ou pas des médecins.
La sédation profonde et continue, c'est ce que permet depuis 2005 la loi Claeys-Leonetti. Insuffisant donc pour ces signataires qui demandent une nouvelle législation sans délai. Reste à savoir selon quelle modalité. C'est là toute la difficulté de ce débat, estime Didier Sicard, médecin et ancien président du Comité consultatif national d'éthique.
Il faut séparer complètement l'assistance au suicide de l'euthanasie. L'assistance au suicide, elle a une possibilité de réflexion. Ça me paraît tout à fait légitime que quelqu'un puisse, comme en Oregon par exemple, recevoir une potion et la prendre ou ne pas la prendre dans les mois qui précèdent sa mort. Et je pense que c'est une loi qui pourrait probablement être acceptable sous le contrôle de l'État. Mais c'est très différent de l'euthanasie qui est quand même une exécution qui est exactement la même chose qu'au Texas. C'est-à-dire que ça dure 2 minutes et les gens qui assistent à l'euthanasie, vous savez, ils s'en souviennent. Et c'est pas quelque chose qui les laisse froid.
Didier Sicard qui lui considère que la loi actuelle convient à 99% des cas. La priorité doit aller, selon lui, à l'amélioration des soins palliatifs en France. Alors y aura-t-il ou non une nouvelle loi sur la fin de vie ? La question n'est pas tranchée, a déclaré ce matin le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l'issue du Conseil des ministres.
Charlotte Lalanne, merci. Et pour poursuivre la réflexion sur ce sujet, Jean Leonetti sera l'invité du journal de 22h. Satisfait site de l'UNEDIC. Selon le gestionnaire de l'assurance chômage, le retour à l'équilibre est en vue. Ces déficits devraient quasiment disparaître à l'horizon 2019. Mais Catherine Pétillon, cette amélioration est très théorique.
Oui, alors pour l'instant, l'heure est à l'optimisme et c'est quand même plutôt rare. Ces prévisions financières sont favorables sous l'effet combiné de la reprise économique et de la dernière convention assurance chômage. L'UNEDIC estime que les déficits reculeraient à 2 milliards en 2018 et à 595 millions en 2019 contre 3,6 milliards d'euros l'an dernier. Ces prévisions laissent entrevoir un retour à l'équilibre en 2020. Rappelons que ce régime de protection sociale est en fait le plus sensible à la conjoncture, dans un sens comme dans l'autre. Or, cette fois, les projections se basent sur une prévision de croissance de 2% en 2018 et de 1,8% en 2019. Et du coup, dans ce contexte, l'UNEDIC table sur une baisse du taux de chômage à 8,4% fin 2009, avec pour conséquence, d'une part, la baisse du nombre de chômeurs indemnisés et d'autre part, l'augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire autant de recettes en plus. Même si cela ne résoudra pas tout, car une partie de la dette de l'UNEDIC est en fait structurelle. Outre cela, l'amélioration des comptes s'expliquerait pour un tiers par la dernière convention qui a modifié les règles d'indemnisation des chômeurs. Une bonne gestion, n'ont pas manqué de souligner les partenaires sociaux pour mettre en avant leur rôle. Il faut dire que cette publication intervient en pleine discussion sur la réforme de l'assurance chômage et Emmanuel Macron n'a pas fait mystère de son souhait de voir l'État prendre plus de place dans la gouvernance du régime. Et là, il y a une autre inconnue, les futures règles d'indemnisation et que ces chiffres par définition n'intègrent pas, notamment l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires après l'accord conclu la semaine dernière par les partenaires sociaux. Muriel Pénicaud doit annoncer les orientations retenues par l'exécutif.
Catherine Pétillon. Le gouvernement annonce des mesures pour améliorer la sécurité à Mayotte. L'île est en grève générale depuis 8 jours pour dénoncer les problèmes liés à la délinquance et l'insécurité. Et aujourd'hui encore, des manifestants ont abattu des arbres pour couper des axes permettant de se rendre dans la ville principale, Mamoudzou. Dans ce contexte, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annonce l'envoi de forces de l'ordre supplémentaires, notamment 2 pelotons de gendarmerie mobile dès cette semaine et 10 agents supplémentaires pour la police aux frontières d'ici fin mars. La ministre prévoit aussi de mettre l'île en zone de sécurité prioritaire et de renforcer la sécurisation des établissements scolaires. Le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, salue un premier pas du gouvernement, mais il en attend d'autres.
J'aurais aimé que ces annonces soient annoncées avant et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est surtout la création rapide d'une compagnie d'intervention, c'est-à-dire une équipe formée pour les questions de maintien de l'ordre. C'est la création de 2 commissariats à Kungu et à Dzaouzi. La sécurité suppose aussi qu'on ait une maîtrise de nos frontières. Je pense à des bateaux aujourd'hui. Il y a 8 bateaux. Quand on les voit, on dit, eh bien, Mayotte est bien équipée. Sur les 8 bateaux, il n'y en a qu'un qui fonctionne à moitié. Les moyens qui sont proposés là, en réalité, correspondent à ce qu'on a appelé le plan Cazeneuve, quand M. Cazeneuve était encore ministre de l'Intérieur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un plan colon. Je crois que pendant très longtemps, on a pris la question de la sécurité à Mayotte par-dessus la jambe. Il est venu le temps de prendre cette question d'insécurité à bras-le-corps et de mettre les moyens qui conviennent.
Le député LR Mansour Kamardine, il faut dire, Camille André, que la situation est devenue explosive à Mayotte.
On a peur de circuler avec nos portables, on a peur de circuler la nuit. Il y a des émeutes devant les collèges. C'est ce quotidien que décrit Maoulida Mohamed, le porte-parole du collectif des manifestants à Mayotte. Une métropolitaine arrivée récemment sur l'île confirme « En 6 mois, je me suis déjà fait agresser, cambrioler et quand je circule, je privilégie toujours les voitures ». Des témoignages qui n'ont rien de très surprenant quand on prend le temps d'analyser les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. En 2016, Mayotte faisait partie des 10 départements français dans lesquels il y avait le plus de faits de délinquance pour 1000 habitants. Par exemple, 2 fois plus de cambriolages dans les logements qu'en métropole et aussi 2 fois plus de vols violents. Les explications sont diverses. Les manifestants dénoncent l'immigration illégale galopante et aussi une importante déscolarisation des jeunes. Et puis le terreau de cette délinquance, c'est sans doute aussi la situation économique de ce territoire. Mayotte est le département le plus pauvre de France. Pourtant, d'après la Cour des comptes, l'État y investit 2 fois moins d'argent qu'en Guyane, par exemple.
Camille André, on a appris cet après-midi le décès de l'historien Pierre Milza, spécialiste du fascisme et de l'Italie. Il avait écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire du XXe siècle. Pierre Milza était professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et membre du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand. Jean-Noël Jeannet vient de réagir à cette disparition.
C'est un vrai chagrin que la disparition de Pierre Milza pour toute la communauté des historiens, parmi laquelle il avait une place singulière. Il était un bel exemple de promotion républicaine. Il était le fils d'un immigré italien et il avait, après l'école normale d'instituteur, gravi tous les échelons d'université jusqu'à devenir professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Et il avait pris une place vraiment originale, en particulier en s'attachant aux relations entre la France et l'Italie. Il avait commencé une thèse sur les immigrés italiens en France, comme l'avait été son père. Il a été l'auteur de plusieurs ouvrages sur Garibaldi, sur Mussolini, sur Verdi. Il a donné à mieux comprendre ce qu'était l'Italie dans la longue durée à un public français. Et de cela, chacun peut lui être reconnaissant.
Il avait une vision, vous le disiez, spécialiste de l'Italie, mais aussi il avait une vision de l'histoire beaucoup plus globale qu'il enseignait.
Il était spécialiste des relations internationales. À partir du binôme France-Italie, il avait élargi sa curiosité au-delà et il avait été un de ceux qui a nourri l'histoire des relations internationales au-delà de l'histoire diplomatique. Il a étudié l'histoire des relations internationales en mêlant l'histoire culturelle, les relations, les opinions, les stéréotypes, les regards des uns et des autres, les migrations d'un pays à l'autre. C'était vraiment quelqu'un qui était doué d'une très large perception des phénomènes contemporains. Et je crois que par là même, il a influencé beaucoup de ceux qui l'ont lu et de ceux qui ont été ses étudiants.
Vous le connaissiez en tant qu'homme, en tant que personne ?
C'était un ami. Il était généreux, il était attentif aux autres. Il était tout sauf égoïste ou égocentrique. Il se nourrissait constamment de l'affection de ceux qui l'entouraient, et en particulier de son complice qui était Serge Berstein, qui a été d'un bout à l'autre son ami et qui avec lui a écrit des ouvrages importants d'histoire politique, d'histoire du XXe siècle.
L'hommage de Jean-Noël Jeanneney à Pierre Milza, interview réalisée par Stéphane Robert. 55 départements placés en vigilance orange, neige, verglas. Les risques seront forts demain matin du Finistère aux frontières suisses et italiennes. Après la neige, ce sera le redoux dans le sud avec des pluies modérées sur les Cévennes et en Corse. Les températures seront comprises demain matin entre moins 7 et moins 2 dans le nord, 1 et 5 sur la moitié sud. L'après-midi, il fera 4 à 9 degrés sur la moitié nord, 9 à 17 du sud-est à l'Aquitaine. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.